Mais nous sommes un seul corps. Nous sommes le corps de Christ et Jésus est la tête. Et on veut saluer sa présence. Est-ce que vous avez senti ce matin cet instant solennel où le Seigneur est là? On ne fait pas n'importe quoi dans la présence de Dieu. On ne vient pas d'une manière désinvolte. On vient avec la crainte dans le cœur. On vient pour être meilleur. On vient pour bien se laisser façonner, sculpter par le Seigneur. Et je crois que le Seigneur veut nous parler encore ce matin. Est-ce que nous sommes attentifs? J'ai bien fait attention à ce qu'a dit notre frère au travers de sa prière. Oui, Seigneur, dispose nos cœurs afin qu'on puisse recevoir cette parole. La Bible dit qu'il faut recevoir la Bible, la parole de Dieu avec douceur. Il ne peut pas en être autrement. Et j'ai un message pour nous ce matin de la part du Saint-Esprit. Je voudrais ce matin parler de la communion personnelle avec Dieu. Est-ce que ça nous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse? Qu'est-ce que j'entends par communion personnelle avec Dieu? Eh bien, j'entends par communion personnelle avec Dieu le temps d'intimité que nous pouvons avoir individuellement avec Dieu. Je parle de ce temps au quotidien où nous sommes seul à seul, tête à tête avec notre Seigneur et au travers duquel on veut savoir l'entendre de mieux en mieux, nous parler. Car il veut nous parler, il veut nous enseigner, il veut nous convaincre, il veut nous corriger, il veut nous instruire. Car Dieu parle, c'est lui qui a créé la langue. Qu'est-ce que j'entends par communion personnelle avec Dieu? Je parle de ces moments au quotidien au travers desquels nous méditons la parole de Dieu, où nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu pour finalement entrer en connexion avec l'auteur même, celui qui a inspiré la parole de Dieu. Parce que s'il y a eu 40 auteurs différents sur une plage de 1500 ans pour nous écrire la parole de Dieu, il y a eu un seul inspirateur, c'est l'Esprit de notre Dieu. Qu'est-ce que j'entends par communion personnelle si ce n'est ce moment où nous prions Dieu, où même nous appliquons à le louer, à l'adorer. J'ai beaucoup aimé ce petit chant où il dit « il y a un moment pour louer, un moment pour prier ». Oui, à un moment donné où quelquefois même on arrive à se taire, on n'a plus de mots. Et là, dans la contemplation, on rit ou même on pleure, tellement bouleversé par l'amour, la joie, la grâce que Dieu nous a accordée en Jésus-Christ. Ces temps surnaturels, ces temps de qualité qui se font également dans le secret de notre chambre. Frères et sœurs, notre communion personnelle avec Dieu, voici ce qui, au final, est essentiel et même vital pour chacun d'entre nous, vital pour notre vie chrétienne. En fait, notre vie spirituelle ne peut survivre, écoutez bien, ne peut survivre sans communion personnelle et quotidienne avec Dieu. Et c'est pour cela que ce matin, il est impératif que nous puissions les uns et les autres avoir une communion personnelle avec Dieu réelle et vivante. Il est vital que nous cultivions au quotidien une communion personnelle avec Dieu. Et voyez-vous, le diable fera tout ce qui est dans son pouvoir pour essayer de réduire à néant notre communion personnelle avec Dieu. Il va soit utiliser les distractions. Il a beaucoup de distractions. Il a dit qu'il est ce prince de ce monde. Et tout ce qui est ici-bas sur cette terre lui appartient. Il est capable de nous distraire. Il est capable de nous proposer tellement de plaisir qu'il va nous occuper l'esprit et finalement va nous empêcher de regarder à l'essentiel, de dépenser nos forces, notre énergie pour l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la communion fraternelle, frère. C'est la communion aussi personnelle avec notre Dieu. Le diable aussi par toutes sortes d'épreuves, toutes sortes d'adversités, par les soucis de la vie, va aussi essayer de nous donner à sombrer dans l'inquiétude, peut-être même dans la crainte. Et tout cela afin de nous détourner de l'essentiel, à savoir notre relation personnelle avec Dieu, à savoir notre communion avec Dieu. Alors je nous pose cette question ce matin. Mon frère, ma sœur, à quand remonte ta dernière communion personnelle avec Dieu? À quand remonte ton dernier tête-à-tête avec le Seigneur? Certains pourraient répondre, pas plus tard qu'avant de venir ici, à un moment donné, on s'est recueilli. Le simple fait d'entrer en connexion avec le Seigneur par la prière, on l'a entendu au travers d'un don spirituel, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. Lorsqu'on prie, on fait quelque chose qui dépasse même notre entendement. Dieu a créé ce moyen. Il a dit, ô toi qui écoutes la prière des hommes, un moyen pour que la créature puisse entrer en connexion, en contact avec Dieu. D'autres pourraient répondre, eh bien, moi ça remonte à hier soir où je me suis régalé avec Dieu. Et d'autres pourraient dire, ben moi ça fait quand même quelques jours. Et puis d'autres reconnaîtront que cela remonte à bien trop longtemps. Eh bien, je voudrais de la part du Seigneur tous nous inviter à développer et à entretenir une communion personnelle avec notre Dieu. C'est, je l'ai dit tout à l'heure, un impératif si nous voulons avoir une vie spirituelle fructueuse, si nous voulons avoir une vie épanouie, si nous voulons avoir une vie victorieuse et surtout si nous voulons être fin prêts pour le retour imminent de notre Seigneur. Aussi, Dieu désire que nous cultivions, avec persévérance, j'insiste, une communion personnelle avec lui, et ceci pour plusieurs raisons que j'aimerais eh bien, très rapidement ce matin partager. Alors je vois qu'il y a des personnes qui prennent des notes et vous faites bien. Je me tiens devant le Seigneur pour vous apporter ces choses. Après, on fait de la parole de Dieu ce qu'on veut. Mais si vous voulez avancer, il est important, comme ça a été dit aussi au travers d'un don spirituel, que nous plongeons nos regards parce que la parole de Dieu est vivante. Et il s'agit que lorsqu'on puise nos regards dans la parole de Dieu, eh bien qu'elle puisse apporter le réma, cette vie qui va nous permettre de voir notre foi être activée et avancer de victoire en victoire. Notre communion, voilà une des raisons, notre communion avec Dieu nous procure du repos. Alors là, j'aurais aimé entendre un amen. Notre communion avec Dieu procure du repos. Mon frère, ma soeur, es-tu languissant ce matin? Es-tu fatigué? Es-tu chargé? Je veux te dire de la part du Seigneur, recherche Dieu, cherche ton Dieu. Et alors en retour, il te revigorera, il te fortifiera, il t'apportera tout ce dont tu as besoin. Parce qu'auprès du Seigneur, au pied du Seigneur, il y a tout ce dont on a besoin. C'est Jésus lui-même qui a dit, et c'est un premier verset, Matthieu chapitre 11, verset 28, c'est même pas la peine de le chercher, on le connaît. Jésus qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. N'est-ce pas là une invitation de la part du Seigneur à pouvoir rentrer en contact avec lui, à pouvoir avoir une rencontre avec lui et finalement entrer en communion avec lui afin qu'en retour, nous puissions être eh bien, déchargés, libérés et finalement goûter le repos du Seigneur. Lorsque l'on cherche la communion avec celui que l'on nomme le prince de la paix, alors tout s'apaise autour de nous. Et puis, quelque part, le repos devient notre partage. Alors, certains pourraient dire, mais ouais, mais avec tout ce qui se passe dans ce monde, dans ce bas monde, comment avoir le repos ? Pas plus tard que quelques jours, je voyais un homme qui était là, bien dans l'expectative et puis à réfléchir dans ses pensées. Et il me disait, mais alors on n'a jamais parlé hein, de Dieu. Il m'interpelle et il me dit, mais vous vous rendez compte et tout ce qui s'est passé c'est, donc ces temps-ci avec cet homme qui a été décapité, il n'en revenait pas. Et il voyait cet homme bouleversé. Et puis dans la conversation, parce que j'ai compris là qu'il y avait une porte entrouverte, bien sûr, de la part du Seigneur, je l'ai amené à être en connexion avec Dieu. Je lui ai parlé de ce Dieu d'amour qu'il aimait. Et puis on a terminé la conversation, je lui ai remis un petit évangile et il m'a promis qu'il le lirait. Frères et sœurs, les gens sont dans l'agitation, les gens sont troublés, les gens sont dans l'inquiétude. Il y a même des chrétiens qui sont dans l'inquiétude. Ils sont eh bien, là comme troublés, manquant de repos. Ils ont besoin eh bien, de pouvoir rechercher et chercher plus que jamais le Seigneur. Quand on est à son contact, frères et sœurs, on est dans le repos. On est tranquille et on dort sur eh bien, nos deux oreilles. Job, lui-même, qui était un homme intègre, hein, un homme qui craignait Dieu, eh bien, à un moment donné, il n'a pas eu honte de partager son désarroi intérieur. Regardez ce qu'il est dit dans Job, chapitre 3 et le verset 26. Là, je vous laisse peut-être le temps de le chercher. Il est très court, mais il en dit long sur cet homme qui n'a pas essayé de mettre des masques, mais eh bien, ouvertement, n'a pas caché ce qu'était eh bien, son combat. Et il dit, Job, chapitre 3, verset 26, est-ce que ça peut être projeté sur l'écran? Ah, c'est pas sur le deuxième vidéoprojecteur. Vous l'avez, c'est super. Je le lis, il est sur mes notes. « Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. » Il était troublé. Et peut-être quelqu'un ce matin est troublé. Peut-être quelqu'un ce matin est dans l'inquiétude. Peut-être ce matin tu es manquant de tranquillité, manquant de paix. Eh bien, je voudrais t'encourager à pouvoir te réfugier, alléluia, dans la douce présence du Seigneur. Et par cela même, eh bien, que ton âme puisse retrouver la paix et le repos. Vous savez, il y a un homme, c'est Asa, l'un des rois du royaume de Juda, donc le royaume du sud de la Palestine. Et cet homme, Asa, à un moment donné, très tôt dans sa royauté, très tôt au niveau de son règne, a décidé de chercher Dieu. Et il a encouragé même le peuple à faire autant, à pouvoir chercher Dieu. Et la Bible nous dit qu'en retour, Dieu lui a donné du repos de toutes parts. Et à un moment donné, il l'a constaté et il a dit au peuple, à son peuple, au peuple donc de son royaume, il va leur dire, nous recherchions le Seigneur et lui en retour nous a donné du repos de tous côtés. Frères et sœurs, quand on se met à rechercher Dieu, Dieu nous accorde en retour du repos de tous côtés, de toutes parts. Les mauvaises nouvelles, quand elles arrivent, elles ne nous font aucun mal parce que nous savons que le Dieu des dieux, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs est à nos côtés et c'est lui qui combat pour nous. Je me souviens personnellement qu'à un moment donné, eh bien, l'angoisse s'est emparée de moi. Tel un lion en cage, je tournais, j'étais encore étudiant dans ma petite chambre universitaire. Et je me posais la question, mais comment je vais m'en sortir? Et vous savez, quand on se laisse eh bien, aller à la panique, toutes sortes de pensées viennent à nos cœurs. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné ce réflexe de me jeter littéralement aux pieds de mon lit et crier au Seigneur. Et la réponse ne s'est pas fait attendre. Le Seigneur s'est manifesté dans ma petite chambre universitaire. Quelque chose que je n'oublierai jamais. Telle une pluie invisible est tombée sur moi. Je sentais ces choses même physiquement, mais je ne pouvais voir aucun signe visible, mais ça descendait comme une pluie. Et à ce moment-là, instantanément, le repos, la paix de Dieu est venu m'envahir. Et j'ai pu vivre eh bien, le miraculeux et la paix de Dieu, le secours de Dieu, mais tout cela n'a été possible que lorsque je me suis approché de Dieu. Un peu comme les disciples, vous savez, quand ils étaient au cœur même de la tempête, quand ils étaient dans leur barque. Qui était avec eux dans la barque? Aidez-moi. Comment? Jésus, oui. Mais je ne sais pas combien de temps ils ont eu à batailler, à guerroyer contre la tempête. Jusqu'au moment donné, un moment précis, un des disciples peut-être a décidé eh bien, de pouvoir réveiller le maître, ou peut-être l'ont-ils fait ensemble. Et ça me parle. Vous savez, dans notre barque, dans la barque de notre vie, nous avons Jésus. Mais de l'avoir, c'est une chose. Mais d'entrer en communion avec lui, c'en est une autre. Et tant qu'ils n'avaient pas interpellé le Seigneur dans la barque, eh bien, rien ne pouvait se faire. Au contraire, la chose s'empirait. Ils ont essayé par eux-mêmes, au départ, essayer de calmer. Après tout, Pierre était un homme aguerri au niveau de la pêche. Il connaissait très bien le lac de Galilée. Mais quand les difficultés nous dépassent, quand l'épreuve est là et nous sommes dans le feu de l'épreuve, frères et sœurs, il y a quelqu'un tout près de nous. Et qui n'attend qu'une seule chose, que nous entrions en contact avec lui, afin qu'en retour, eh bien, il puisse se manifester. Lorsqu'on se réfugie en Dieu, eh bien, nous pouvons nous aussi déclarer ce que le psalmiste a dit. Psaume chapitre 116 et le verset 7. Psaume 116, verset 7, super. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Et où, par excellence, le Seigneur veut nous faire du bien? Dans sa proximité, dans notre relation, au travers de notre communion personnelle avec Dieu. Oui, premièrement, voilà l'une des raisons qui ne peuvent ce matin que nous encourager à développer, à cultiver une communion personnelle avec Dieu. Notre communion avec Dieu nous procure du repos. Il y a peut-être une deuxième raison que je voudrais placer bien devant vos yeux. Notre communion avec Dieu nous rend fort. Au jour de l'adversité, c'est notre communion avec Dieu, c'est notre attachement à lui qui nous permettra, frères et sœurs, de résister lorsque l'épreuve viendra nous solliciter. Et je le dis sans gêne, avec assurance, le croyant qui ne cultive pas une communion personnelle avec Dieu n'est pas pleinement enraciné en Jésus-Christ. Et ce qui fait que lorsque justement l'épreuve ou l'adversité, voire même la tentation vient le solliciter, eh bien il manque de persistance et finit par chuter. Le croyant qui ne cultive pas une communion personnelle avec Dieu possède une foi, on va dire, superficielle, une foi légère, une foi fragile. Vous voyez, c'est ces genres de croyants qui, eh bien, ont résumé leur vie chrétienne juste à un aller-retour entre leur maison et puis l'église. Ils sont fidèles aux réunions, c'est une chose. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et d'ailleurs, ces mêmes personnes, ces mêmes croyants sont sincères. Ils sont sincères avec Dieu. Ils croient en Dieu. Et mieux encore, ils défendent, ils professent eh bien, toutes les valeurs morales qu'on retrouve et chrétiennes que l'on retrouve dans la Bible, certes. Mais voyez-vous, quelque part, en dehors de cela, eh bien, ces mêmes croyants n'ont pas de véritable communion personnelle avec Dieu. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de relation entre eux et leur Dieu. Et la conséquence, justement, à tout cela, c'est quand l'épreuve arrive sur leur vie, eh bien, ces personnes ne peuvent résister. Vous savez, il y a une différence entre connaître Dieu et puis être connu de Dieu. Et pour être connu de Dieu, il faut bien évidemment cette intimité, ce contact, afin qu'il y ait cet échange entre nous et notre Créateur, mais aussi notre Père Céleste. Si Démas, à un moment donné, a déposé le flambeau, baissé les bras, la Bible nous dit qu'il a abandonné Paul, et ça sous-entend qu'il a certainement abandonné les voies droites du Seigneur. La Bible nous dit aussi qu'il s'est tourné vers les plaisirs de ce monde. Et je me dis quelque part, si Démas en est arrivé là, c'est parce qu'à un moment donné, dans sa marche chrétienne, il a négligé la communion personnelle avec Dieu. Et ce n'est pas la peine de l'accuser, parce que si eh bien, nous-mêmes, nous n'entretenons pas notre communion personnelle avec Dieu, ce sera exactement pareil, frères et sœurs. C'est une question de temps, nous ne tiendrons pas. Amen ou pas amen, frères et sœurs ? Un autre exemple que j'ai mis aussi sur mes notes, oh, combien connu, c'est le roi Salomon. Je le mets en évidence parce qu'il est tellement flagrant. Vous savez, eh bien, quand il a commencé son règne, c'était eh bien, un homme qui était assez humble pour entretenir une communion avec Dieu. Il a crié à Dieu, « Seigneur, donne-moi la sagesse pour pouvoir eh bien, dominer et gérer ce peuple. » Et Dieu lui a accordé eh bien, tout ce dont il avait besoin et même au-delà. Dieu l'a béni en tout point. Et quand il est eh bien, arrivé à cette royauté qui était connue, reconnue hein, sur toute la surface de la terre, eh bien, certainement aussi cet homme, à un moment donné, insidieusement, a négligé sa communion personnelle avec Dieu. Vous comprenez ce que Dieu veut nous dire ce matin ? Quelle que soit notre position, et moi qui vous parle, si je néglige ma communion personnelle avec Dieu, eh bien, je ne tiendrai pas. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous et le plus petit d'entre nous. Je voudrais tellement que l'on reparte de ces moments à bien avoir ce désir pleinement de pouvoir plus que jamais rechercher la face de Dieu. Apprendre à être en connexion avec lui au quotidien. Et ne pas nous contenter à bien juste de venir les dimanches, ça va, j'ai fait ma BA et puis basta. Mais le Seigneur nous accompagne au quotidien chaque jour. Et il attend, il aspire à cette relation personnelle. Il veut nous parler alors que nous sommes dans les démarches, alors que nous sommes dans les carrefours de notre vie, à se poser des questions. Dieu veut nous conduire, nous diriger. Mais quelquefois, on sort de ce lieu et on a déjà oublié. On a oublié que le Seigneur est toujours dans la barque de notre vie. Vous savez ce qui a manqué au roi Salomon ? C'est qu'il a négligé la parole. Parce que cette même parole l'invitait en tant que roi qui dirigeait le peuple d'Israël à pouvoir eh bien, avoir à côté de lui eh bien, la loi afin de s'y soumettre et puis aussi de la mettre en pratique. Regardez ce qu'il est dit dans Deutéronome, ça vaut le coup de le lire. Deutéronome chapitre 17 du verset 15 à 20. On va faire une petite lecture, vous allez voir. Deutéronome chapitre 17 verset 15 jusqu'au verset 20. Deutéronome chapitre 17 verset 15 à 20. Voilà ce qui était donné comme recommandation pour le roi, pour bien aussi le peuple d'Israël. Il nous est dit, et c'est Moïse qui parle, il dit « Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux. Un. Et qu'il ne ramène surtout pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. » C'est bizarre, hein ? On va y revenir. « Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. » Puisqu'ils avaient été délivrés, libérés eh bien, de l'esclavage en Égypte, Dieu avait fermé ce passage pour qu'ils n'y retournent plus, même pour faire des affaires. Verset 17, « Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Verset 18. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Frères et sœurs, est-ce que c'est clair? Quand Dieu nous parle, c'est clair. Il rentre dans les détails. On dit, oh, mais c'est des petits détails. Non, on dit que le diable se cache dans les détails. Mais Dieu se glorifie dans les détails, frères et sœurs. Et tout était déjà précis à l'avance, avant même que Salomon monte sur le trône. Ces choses étaient déjà écrites. Mais à un moment donné, dans sa communion personnelle qui s'étiolait, Salomon a négligé d'observer la parole de Dieu. Voilà son tort. Puisque, on le sait, il faut juste relire le verset et tous les chapitres qui concernent la vie de Salomon pour découvrir que cet homme avait des dizaines de milliers de chevaux. Et comme par hasard, il les a trouvés et achetés en Égypte. De plus, il a pu ramasser une somme colossale d'or. Et il a cumulé à Jérusalem. C'était le roi le plus riche, on pourrait dire, de toute la terre. Et de plus, vous le savez, combien de femmes il avait? Juste 700 princesses, quoi. Et puis 300 concubines, ça fait 1000. 700 plus 300, ça fait 1000. Il a fait exactement le contraire de ce qui était écrit. Et c'est pour moi, comme pour vous, la preuve que cet homme avait négligé sa communion, la communion personnelle avec Dieu au travers de tous ces temps de lecture. Il devait écrire, réécrire. Alors la Bible n'était pas aussi complète que maintenant. Ils avaient au moins le Pentateuque ou quelques livres. Ce n'était pas long. Il fallait quotidiennement lire la parole. Et bien sûr, appliquer son cœur à pouvoir la mettre en pratique. Frères et sœurs, ne nous contentons pas des cultes et des prédications du dimanche. Ne nous amusons pas à cela. Parce que spirituellement, nous serons affamés. Parce que spirituellement, nous n'aurons pas assez de force quand l'épreuve viendra, quand l'ennemi se choisira de vous cribler, vous et votre famille. On a besoin au quotidien de lire la parole de Dieu pour avoir une connaissance solide afin d'être inébranlable. Quand vient souffler la tempête, qu'on soit semblable à ce palmier qui, certes, va tanguer, mais va se relever. Ne jouons pas à ça. On a besoin chaque jour de nous nourrir de la parole de Dieu. Il a dit, le Seigneur Jésus, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, lire et méditer la parole de Dieu, mais surtout la mettre en pratique. Parce que là aussi, l'apôtre Jacques a dit dans Jacques chapitre 1, verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Quel est ce faux raisonnement? C'est de penser qu'à partir du moment où je suis venu au culte, ce matin, que j'ai écouté la parole de Dieu, « Oh, il était bien, hein? Oh, il a foiré, là, il a machin, on met même des chiffres quelquefois. Oh, il a bien prêché, oh, on a un bon prêché. » Mais ce n'est pas ça qui est important, frères et sœurs. C'est de comprendre ce que Dieu veut nous donner, la pensée qu'il veut nous accorder et la saisir et surtout chercher à la mettre en pratique. Là où nous ferons des progrès, ce n'est pas en nous bornant à l'écouter. Il y en a qui se bornent à se saturer de connaissances. Mais ce n'est pas là que Dieu nous attend, c'est dans la mise en pratique. Et je le dis souvent, vaut mieux connaître que peut-être très peu. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais vaut mieux connaître très peu et puis le mettre en pratique que de connaître beaucoup et de rien mettre en pratique. On a besoin de reconsidérer ces choses et lire cette parole jour après jour et plus que jamais chercher à la mettre en pratique. Et c'est là où nous serons heureux, c'est là où Dieu nous attendra. Regardez un autre exemple, celui-là, donc merci Seigneur, il sera positif, c'est celui de Daniel. Daniel qui a une foi inébranlable, même dans l'épreuve. Pourquoi? Parce que cet homme a choisi de pouvoir entretenir chaque jour une communion personnelle avec Dieu. Regardez juste un verset qui en dit long sur cet engagement qu'il a pris vis-à-vis du Seigneur, cet amour, cet élan qu'il avait toujours pour entretenir une communion personnelle avec Dieu, même dans l'épreuve. Daniel chapitre 6, verset 10. Daniel chapitre 6 et le verset 10. Je vous laisse le temps même de le chercher. Daniel chapitre 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira où ? Dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Une communion personnelle avec Dieu qui était imperturbable, qui ne voulait pas souffrir d'irrégularité, mais qui se voulait constant. Alléluia. Je le relis. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Voici quelque part le secret de la foi inébranlable de Daniel. Il entretenait, j'ai envie de dire, une solide et réelle communion avec Dieu. Et si nous voulons être victorieux au jour de l'adversité, veillons, frères et sœurs, sur notre communion personnelle avec Dieu. Amen, frères et sœurs. Voilà une deuxième raison. Tu veux être fort, il y aura des épreuves. Ce qu'on vit actuellement n'est absolument rien par rapport à ce qui va suivre, frères et sœurs. Et le Seigneur viendra chercher une église qui est victorieuse. D'ailleurs, le Seigneur le dit assez dans le livre d'Apocalypse, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. C'est un combat. Nous sommes engagés dans un combat. Et on a besoin d'être courageux, mais aussi être constamment en connexion avec Dieu. Je termine avec une dernière raison qui devrait nous encourager à cultiver notre communion avec Dieu. On vient de le voir, même un peu avant, que notre communion va nous procurer du repos et de la paix. On vient de voir que notre communion avec Dieu nous renforce au jour de l'adversité. Je termine avec une troisième et une dernière raison. Notre communion avec Dieu a le pouvoir de nous changer. Ah, Antoinette a dit « Amen, moi ça me rassure. » Parce que malgré son âge avancé, elle est consciente que de toute façon, tant qu'on aura, on sera sur cette terre, on aura besoin de changer. Le problème, on a arrêté de progresser, on a arrêté de grandir avec le Seigneur quand on pense qu'on est arrivé à quelque chose. On n'est arrivé à rien, frères et sœurs. Et moi, le premier, j'ai tout à apprendre de la part de Dieu. On a besoin de changer. Je voudrais tellement ressembler à Jésus. Et quelquefois, je viens m'isoler dans ma chambre, dans mon bureau, et dire, mais Seigneur, oh, quand, qu'est-ce combien j'ai été, pas du tout à la hauteur. C'est bien, quelquefois, de faire le point de toute la journée. Et lui demandant pardon par rapport à telle parole, telle action, telle... On veut ressembler au Seigneur. Et tous nos efforts, soyons honnêtes, bien des efforts, on en a fait, bien des résolutions, on en a pris. Et finalement, c'est toujours la même chose, c'est cet échec. Tout cela pour nous rappeler que de toute façon, sans Dieu, nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Il y a des choses qu'on peut changer, mais il y en a d'autres qui, si le Seigneur n'intervient pas, nous ne pourrons pas les voir changer au-dedans de nous. C'est d'ailleurs ce qu'a dit le prophète Jérémie, un passage que j'aime beaucoup, Jérémie 13, verset 23, ne le cherchez pas, je vous le lis. Un Éthiopien, peut-il changer sa peau ? Allez, je vais faire en français courant. Un black, peut-il changer sa peau ? Un léopard, peut-il changer ses taches ? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Par contre, Dieu, lui, il est capable de nous changer. Et je crois que, à travers nos moments de communion avec lui, à travers nos temps d'intimité avec lui, Dieu désire plus que jamais nous transformer. Je ne sais pas combien d'heures d'enseignement le Seigneur a pu prodiguer à tous ses disciples. Vous savez qu'il les a eus environ 3 ans et demi. Et la Bible précise, il a choisi ses disciples pour les avoir avec lui. Mais combien d'heures Jésus les a enseignés ? Et à force de les enseigner, le Seigneur était en train de les façonner de l'intérieur, les corriger, les convaincre, les instruire. Et tout cela, au fur et à mesure de leur cheminement avec Jésus, a transformé le cœur des disciples. Le cœur des disciples s'est littéralement conformé au cœur de leur maître. Et je nous le dis, plus nous passons du temps dans la présence de Dieu, plus notre être va s'imprégner de qui est Dieu. Nous serons alors comme littéralement transformés en son image. Quelquefois à notre insu, sans que nous le sachions. Puis nous allons être bien émerveillés de découvrir que finalement, nous avons le langage du ciel. Parce qu'il y a le langage du ciel. Je pose souvent la question, est-ce qu'un chrétien doit donner constamment du matin jusqu'au soir des gros mots, faire sortir de sa bouche? Non! Nous sommes un peuple de sacrificateurs et donc de rois. Nous sommes, faisons partie du royaume de Dieu. Et là-haut, il n'y a que noblesse. Il n'y a pas de gros mots, frères et sœurs. Et c'est quelque chose qu'il faut rectifier. Nous sommes des gens nobles et on doit lever la tête. Nous faisons partie, alléluia, de la grande famille du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Il y a un langage du ciel. Il y a des sentiments qui sortent même, alléluia, du ciel. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Seigneur nous a laissé toute cette parole, 66 livres, pour qu'on puisse découvrir quels sont les fruits de l'esprit, le caractère même de Christ. Je ne fais pas n'importe quoi, je ne dis pas n'importe quoi. Nos actes doivent se conformer à ceux de Jésus-Christ. Et parce qu'on est défaillant et parce qu'on est imparfait, il faudra autant que cela puisse se faire, revenir au Seigneur et dire, mais Seigneur, voilà, rectifie-moi, purifie-moi, pardonne-moi pour telle chose, afin d'être conforme au schéma, au modèle, à l'image que le Seigneur nous a laissé, à savoir Jésus-Christ. Quelques exemples, j'ai parlé des disciples, on lit par exemple dans Actes chapitre 4, verset 3, 13, Actes 4, 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Voilà, tous ces chefs religieux-là, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple, sans instruction. Et voilà ce qui nous intéresse. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Au contact de Jésus, nous sommes transformés. Et vous comprenez mieux que plus nous allons passer du temps dans la communion personnel avec Dieu, plus nous allons nous laisser être transformés en l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Leur proximité avec Jésus leur a donné d'être comme imprégnés du caractère de Christ. Et je voudrais terminer avec un dernier exemple, c'est celui de Moïse. Moïse, vous savez qu'il est monté à deux reprises sur la montagne, au moins à deux reprises, puisque c'est ce que nous laisse la parole de Dieu, mais on peut supposer qu'il a été combien de fois sur cette montagne, la montagne de Sinaï. Et il y a ce passage qui pourrait nous interpeller ce matin, Exode chapitre 34, versets 28 à 30. Alors là, je vous laisse le temps de pouvoir le chercher, afin que vous l'ayez devant vos yeux, car ça, il me semble, concerne tout le monde ici présent. Exode chapitre 34, du verset 28 jusqu'au verset 30. Exode chapitre 34, du verset 28 jusqu'au verset 30. Avez-vous trouvé, frères et sœurs? Exode est le deuxième livre de cette merveilleuse parole que le Dieu nous a laissée. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Verset 30. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Juste ces quelques versets, ces 2 versets, sont là aussi pour nous apporter encore d'autres raisons pour que nous puissions ce matin, plus que jamais, nous entretenir une communion avec Dieu. Premièrement, la Bible dit, on vient de le lire, que dans la présence de Dieu, Moïse n'éprouvait pas le besoin de manger. Pendant 40 jours et 40 nuits, il n'avait ni faim. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas faim. Et la présence de Dieu est vraiment surnaturelle. Elle est capable de pourvoir à tous nos besoins, toutes nos attentes, se solutionne en la présence de Dieu. Moïse n'éprouva pas le besoin ni de manger ni de boire, parce que dans la présence de Dieu, nous sommes comme comblés, on est rassasiés, on est comblés, on n'a besoin de rien d'autre, frères et sœurs. Voilà le premier point. Une autre raison, nous ressortons de la présence de Dieu avec les paroles de Dieu. Il est monté les mains vides et il redescend avec juste les tables de la loi, les 10 commandements. Il redescend avec l'expression même de la volonté de Dieu. Il redescend de son temps de communion avec Dieu, qui a duré quand même assez longtemps, puisque 40 jours et 40 nuits, il a eu le temps de vraiment de s'imprégner de la volonté de Dieu. Et il sait, en sortant de son temps de communion avec Dieu, ce qu'il y a lieu de faire. Il sait où aller. Et quelquefois, on est avec des questionnements. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Entrons dans le lieu secret avec Dieu. Et là, Dieu va nous révéler eh bien, comment en retour eh bien, savoir agir. Eh bien, il saura nous donner sa pensée. Il saura nous donner même des révélations. Parce que même à un moment donné, Moïse est remonté. Et là, Dieu lui a donné les plans pour établir eh bien, tout un tabernacle. Et vous avez vu, là aussi, il y a pas mal de détails. Il y a le parvis, il y a le lieu saint, le lieu très saint, et tous les détails avaient été donnés à Moïse. S'il n'avait pas eu cette communion, il n'aurait pas pu avoir cette révélation. Et d'ailleurs, dans Jérémie chapitre 33, verset 3, ne le cherchez pas, mais juste en pensée, je le dis, le Seigneur, il dit, invoque-moi. Et là, dans le secret, eh bien, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu veut nous révéler eh bien, ce qui peut-être jusqu'à maintenant était comme voilé devant nos yeux. Dieu est capable de nous accorder le discernement. Pendant ces temps eh bien, de communion et d'intimité avec Dieu. Oui, même eh bien, au travers de son temps de communion avec Dieu, le Seigneur a même donné à Moïse la révélation de l'origine de la création du monde. Tous les commentateurs sont d'accord pour dire que les cinq premiers livres, ce qu'on appelle le Pentateuque, ont été écrits eh bien, par notre ami Moïse. Et on peut croire, on peut supposer que c'est dans ces moments, alors qu'il était là seul à seul avec Dieu, que Dieu lui a raconté l'histoire, le début, l'origine de notre humanité. C'est pas rien. Et le Seigneur voudrait faire de même avec nous. Dieu désire nous donner autant au travers de notre communion avec lui. Et puis, de notre texte, je relève un troisième et dernier point qui rejoint notre troisième et dernière raison. Notre communion eh bien, est capable de nous transformer. La Bible nous dit, et on l'a lu ensemble, que Moïse, quand il est redescendu de la montagne, il ressemblait véritablement à une lampe halogène. Hein. La lumière, il y avait, j'ai envie de dire, une part de la gloire de Dieu qui se reflétait sur son visage. Et c'est extraordinaire. Et on l'a lu au verset 29. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Sans tordre le texte, je pourrais exprimer cette même dernière phrase de ce verset 29 de la manière suivante. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait entretenu une communion avec Dieu. Vous savez, quand on sort de la présence de Dieu, Dieu laisse son empreinte sur nous. Et il y a une part de gloire qui nous accompagne. C'est son onction qui vient sur nous. C'est son autorité. Et on le voit bien. Il nous est dit au verset 30, « Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse. Et voici la peau de son visage rayonnait et ils craignaient de s'approcher de lui. » Dieu lui-même vient se manifester. Et Moïse, de plus en plus, eh bien, est en train de s'effacer pour laisser eh bien, la gloire de Dieu même se manifester au travers de lui. Voilà une raison qui ne peut que nous encourager, frères et sœurs, à chercher Dieu. Sortir de ces moments et voir, eh bien, constater que ceux qui nous entourent disent « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quel est ce changement? Il y a quelque chose qui est bizarre sur ton visage. » Et entrer dans le miraculeux, connaître l'extraordinaire. Si tu veux être transformé de gloire, en l'image de Christ, tu as besoin de cultiver une communion personnelle avec Dieu. Et je le dis parce que c'est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 3 et le verset 18. Regardez ce qu'il est dit. On en a bientôt terminé. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Et si Dieu nous permet et nous fait la grâce eh bien de pouvoir vivre une partie de sa gloire, un peu de sa gloire, c'est toujours pour qu'en retour, eh bien, toute la gloire lui revienne, frères et sœurs. Pour qu'en retour, eh bien, nous soyons vraiment ces lampes qui vont éclairer eh bien, tous ceux et celles qui seront à notre contact, pour que nous soyons une bénédiction eh bien, pour les autres. Oui, lorsque nous entretenons, lorsque nous cultivons une communion personnelle avec Dieu, eh bien, Dieu nous transforme en son image, en l'image de son fils Jésus-Christ. Que dire en conclusion? Et je prends juste eh bien, ce qu'a dit un homme un jour. Il a dit, le temps le plus riche à vivre ici-bas, C'est celui qui nous amène à nous placer dans la communion avec Dieu. Et ce doit être là notre priorité. Vous savez, on prend souvent l'exemple de ce phénomène, ce qu'on appelle l'iceberg, ce gros bloc de glaçons qui flotte là, sur la surface de l'eau. Et vous le savez, quand on regarde un iceberg, la partie visible, elle correspond environ à un dixième de l'ensemble de l'iceberg. Pourquoi ? Parce que les 9 dixièmes se trouvent plongés, cachés quelque part du regard de celui qui est au-dessus de l'eau. Il en est de même de notre communion personnelle avec Dieu. Bien que cachée du regard des autres, elle doit avoir une place de choix dans notre vie chrétienne. Elle est essentielle, elle est importante et on l'a vu. Au travers de ce qu'on a partagé, elle nous procure le repos. Mieux encore, elle nous renforce au jour de l'épreuve. Et également, elle nous transforme en l'image de Christ. Alors, frères et sœurs, vous l'avez compris, la conclusion, elle est simple. Développons, cultivons notre communion personnelle avec Dieu. On est assaillis de toutes parts. Quelquefois, on n'a même pas, il nous manquerait même des heures rajoutées à la journée, tellement il y a beaucoup à faire. Mais jamais ne négligeons notre communion personnelle avec Dieu. J'ai donné juste 3 raisons, mais comprenez que les raisons, elles sont infinies. Auprès de Dieu, nous avons tout. La Bible dit autre part, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Nous sommes, lorsque nous nous approchons de Dieu, lorsque nous rentrons en connexion avec lui, nous sommes en présence du principe même de la vie, de la source de toute vie. Et c'est à nous de pouvoir prendre en considération ce que le Saint-Esprit veut nous dire ce matin. Un dernier passage, puis après nous allons prier 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 8 et 9. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle et lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, il y a un appel ce matin, baissons nos têtes, fermons nos yeux, il y a un appel de la part du Saint-Esprit. Il y a un appel de la part de notre Dieu, notre Père Céleste. Il nous invite à pouvoir cultiver, développer notre communion personnelle avec Dieu. On a compris qu'on ne peut pas se satisfaire de nos réunions plénières. C'est au quotidien, pour faire face à nos grandes journées, pour faire face aux épreuves, pour faire face aux flèches de l'ennemi, aux adversités, même aux tentations. On a besoin, en amont, de pouvoir privilégier ce qu'on appelle le culte personnel ou cette communion personnelle avec Dieu. On a compris ce matin que c'est vital. Et il y a un appel à ce matin. Le Seigneur qui nous encourage à pouvoir, pour certains, peut-être même réparer cette communion personnelle avec Dieu. Et peut-être pour d'autres, c'est de juste restaurer cette communion personnelle ou de renouveler cette communion personnelle. Et peut-être d'autres, c'est juste à apprendre à commencer à avoir une relation intime, profonde avec Dieu. Et je voudrais nous donner encore ce matin l'occasion de reconsidérer nos voies et reprendre position devant Dieu, notre Père Céleste. Et comme des enfants, simplement, exprimer à Dieu notre désir de pouvoir tout à nouveau cultiver, renouveler, restaurer, réparer, quelle que soit votre situation, restaurer, réparer, renouveler ou cultiver notre communion avec le Seigneur. Et si c'est ton cas, mon frère, ma sœur, je voudrais, alléluia, t'inviter à pouvoir te lever, comme pour marquer un temps, aujourd'hui même, en réponse à la parole de Dieu, dire « Seigneur, aide-moi à réorganiser ma journée, aide-moi à mettre la priorité des priorités, à pouvoir entretenir, cultiver, chérir un temps de communion personnelle avec toi. » Si c'est ton cas, lève-toi à ta place et le Seigneur te verra. Et dans ce geste de foi, en te levant, le Seigneur va t'aider. Tu vas prendre cette résolution dès ce soir. Et tu vas apprendre à écouter la voix du Seigneur. Tu vas apprendre dans le secret, peut-être de ton bureau ou de ta chambre, apprendre à écouter la voix du bon berger. Il attendait tellement ce moment depuis longtemps. Il a hâte que tu puisses t'approcher, t'isoler, eh bien des besoins, des adversités extérieures, pour rester seul à seul devant ton Dieu. Si tu veux renouveler cette communion, lève-toi à ta place. Prends position devant Dieu. Arrête de regarder les uns les autres. Ce moment est solennel. Ce moment est important. Et le Seigneur nous attend dans ce tournant pour que nous puissions aller de l'avant. Le Dieu qu'on sert est un Dieu bien réel, bien vivant. Et il veut se révéler à nous plus que ce que nous avons connu jusqu'à maintenant. Il veut nous accorder, alléluia, toutes ces grâces, ces bénédictions, comme il l'a fait en son temps pour Moïse. Il veut le faire pour nous. Seigneur, tu vois ces personnes qui se sont levées. Seigneur, mon Dieu, moi j'ai un avantage, je suis déjà debout. Et mon désir, c'est encore à bien développer, cultiver encore cette communion avec toi. Seigneur, je ne veux pas être un pseudo-chrétien. Seigneur, je veux être un véritable enfant de Dieu, quelqu'un que tu connais. Car je l'ai dit à ton peuple. Seigneur, Père, on peut te connaître. Oui, Seigneur, mon Dieu, avec une connaissance intellectuelle. Mais ce qui est important, c'est que nous soyons connus de toi. Un jour, tu viendras toi-même faire la différence entre ceux qui te cherchent et ceux qui ne te cherchent pas, entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas, entre le méchant et le juste. Et nous voudrions faire partie des justes. Et tu vois tous mes frères, mes sœurs qui se sont levés et qui, Seigneur Père mon Dieu, dans un élan de foi, te demande, tout comme moi, de nous aider, Seigneur Père mon Dieu, à pouvoir te chercher davantage, à pouvoir, Seigneur Père mon Dieu, être en connexion avec toi, à pouvoir développer, alléluia, cette relation qu'a pu vivre Moïse, au point qu'il, Seigneur Père mon Dieu, en avait même oublié de manger, même de boire, parce qu'en ta présence, nous avons tout ce dont on a besoin. Seigneur, réforme nos voies, au cœur même, Seigneur, de ce monde, au cœur même de la tempête, que nous puissions, Seigneur, plus que jamais, Seigneur, solliciter ta présence, Seigneur Père mon Dieu, afin qu'en retour, tu puisses manifester ta gloire dans nos vies. Mon Dieu, dans la vie de nos enfants, dans la vie, Seigneur, de nos conjoints, dans la vie de nos parents, dans la vie de nos familles, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Père éternel, réveille nos entendements, réveille nos cœurs. Seigneur, nous sommes aveugles. Seigneur Père, mon Dieu, nous voudrions voir comme, Seigneur Père, toi tu vois. Seigneur, nous voudrions, Seigneur Père, être tes bras, tes mains, ta bouche, Seigneur. Et pour cela, Seigneur Père, nous voudrions, Seigneur mon Dieu, apprendre ou réapprendre à nous placer devant toi et nous tenir devant toi. Seigneur, à tes pieds. Seigneur Père, honore. Seigneur, toutes les démarches qu'on puisse faire ce matin. Seigneur Père, Seigneur mon Dieu, tous ces engagements qu'on pu être pris, Seigneur. Honore, Seigneur, je te prie, glorifie-toi et aide encore mes frères et mes sœurs. Aide-moi moi-même, Seigneur, à faire des progrès dans ce domaine. Puisque tu nous as parlé ainsi, nous voudrions réagir à ta parole. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut tous se mettre debout, frères et sœurs, et ensemble, quelques instants, prier le Seigneur. Alléluia. Vous qui parlez en langue, faites-le, alléluia, ce matin. Vous qui, alléluia, eh bien, voudrez prier intérieurement, faites-le. Mais le mieux, c'est de pouvoir élever la bouche et alléluia, élevez la voix, ouvrez votre bouche et parlez à votre Dieu. Prions ensemble, invoquons le Seigneur, demandons-lui, on veut alléluia cet attouchement, on veut cette grâce, on veut alléluia être utile, productif dans notre génération. Seigneur Père éternel, nous avons faim et soif de toi. Bénis encore cette église, bénis cette église locale, réveille nos cœurs. Seigneur, nous voudrions, Seigneur Père mon Dieu, avoir ton caractère, tes sentiments, ta pensée. Seigneur mon Dieu, réforme nos voix, réforme nos cœurs, réforme nos vies. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, apporte le repos, apporte la paix du cœur. Donne-nous à être inébranlables, Seigneur mon Dieu, au travers des épreuves, et viens nous transformer, viens nous changer, Seigneur, davantage. Je te le demande au nom de Jésus. Bénis mes frères et mes sœurs, Seigneur, que ne soyons pas endormis, Seigneur, ni physiquement, et, Seigneur mon Dieu, encore moins spirituellement. Je t'en supplie, Père éternel, donne-nous, Seigneur Père, avoir les yeux ouverts, Seigneur, sur ce qui se passe, donne-nous du discernement. Seigneur, sans ta grâce, nous ne verrons rien. Seigneur Père, nous subirons les choses, mais nous ne voudrions pas subir les choses, mais les dominer. Seigneur, tel, Seigneur Père mon Dieu, des aigles au-dessus, Seigneur, de la tempête au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, glorifie-toi dans nos familles. Seigneur, sauve nos enfants, sauve nos conjoints, sauve nos parents, sauve, Seigneur Père mon Dieu, nos proches. Je te prie pour ce jeune homme que tu m'as donné à rencontrer. Touche-le, sauve-le à salut au nom de Jésus. Père, pardonne, fais grâce, Seigneur Père éternel, pour la gloire de ton nom. Et Seigneur Père mon Dieu, manifeste-toi, révèle-toi à nos cœurs au nom de Jésus. Alléluia, amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur mon Dieu, d'exaucer nos prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et amen. Vous pouvez tous vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Oui, vas-y, vas-y. Fabrice voudrait dire quelque chose. Vas-y, mon frère.